Pour préfacer mon exposé, je voudrais que nous lisions quelques versets de l'Écriture sainte de la Bible, un court passage qui contient le mot « mythe ». Je veux, en préfaçant ainsi ce que j'ai à vous dire, souligner que notre seule référence objective et normative en matière d'évangile, c'est le document biblique. Le Nouveau Testament seul peut définir d'une manière qui s'impose à nous ce qu'est l'évangile. Permettez-moi de vous lire dans la deuxième épître de saint Pierre, au chapitre 1er, les versets 16 à 21. 2 Pierre 1, 16 à 21, je cite. « En effet, ce n'est pas en nous mettant à la traîne de fables sophistiquées que nous vous avons fait connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. » Fin de citation. Le mot qui est traduit « fable » dans ce verset, c'est le mot « mutos » en grec, et on pourrait traduire « mythe ». Le mot « sophistiqué » suggère une habileté de composition. On pourrait peut-être paraphraser ainsi des mythes ingénieusement arrangés. Je reprends le verset 16. Ce n'est pas en nous mettant à la traîne de fables sophistiquées que nous vous avons fait connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pour l'avoir vu de nos yeux dans tout son éclat, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la voix venue de la splendeur magnifique de Dieu lui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. » Et cette voix, nous-mêmes, nous l'avons entendue venant du ciel quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. De plus, nous avons la parole des prophètes qui est la solidité même sur laquelle vous avez raison de fixer votre regard comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que luise le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez-le bien, aucune prophétie de l'Écriture n'est affaire d'interprétation privée. En effet, ce n'est pas la volonté humaine qui a jamais produit une prophétie, mais c'est porté par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'était jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. L'Évangile est-il un mythe, un conte, une histoire, ou bien l'Évangile est-il le rapport rigoureux d'événements advenus, un témoignage indubitable en un mot de l'histoire? Les Anglais ont coutume de poser le problème en opposant les termes voisins de forme mais distincts de sens, story et history. Story désigne les contes, les belles histoires inventées qu'on raconte aux enfants. Et history désigne la relation d'événements qui sont réellement arrivés, l'histoire des historiens. L'Évangile donc, est-il un mythe ou bien de l'histoire? À cette question justifiée, inévitable, la tentation première, mais aussi sans doute la solution de facilité est de répondre par une sorte de compromis. L'Évangile est-on d'abord tenté de dire, ne serait-il pas un peu des deux, la synthèse en quelque sorte du mythe et de l'histoire? D'aucuns ont même forgé pour le mystère chrétien le mot hybride de mythe-histoire en un seul mot. Mais à y réfléchir quelque peu, ce compromis facile suggère une conception bien pauvre du mythe et de l'histoire, une notion positiviste. Ce sont là deux faiblesses que je m'efforcerai de mettre en évidence, tout en éclairant dans un premier temps les différences de forme et de fond entre le récit mythique et le récit historique. Ensuite, deuxièmement, les différences de démarche, de fonction même entre les mythes et l'Évangile. Dans une troisième partie, enfin, une fois l'Évangile démontré comme récit purement historique, je vous inviterai à en considérer la crédibilité du message. Le verre d'eau œcuménique. Premièrement, différence entre mythe et évangile. Revenons donc d'abord à cette antithèse que le titre « L'évangile, mythe ou histoire » établit. J'en imagine plus d'un parmi nos contemporains qui nous ferait le reproche suivant. Vous en êtes encore à mépriser le mythe comme superstition puérile, comme un essai malhabile pour expliquer les lois de la nature. Le mythe signifie pour vous pensée confuse, ou bien mensonge, ou bien erreur. Et vous restez, nous dirait-il, prisonnier du fétichisme des faits, comme ces historiens du XIXe siècle, obnubilés par le souci de savoir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé exactement, matériellement. Mais nous avons appris, continuerait notre interlocuteur, nous avons appris qu'il y a plus de sagesse dans le mythe que dans des volumes et des volumes d'historiens sans imagination. L'étude sympathique des cultures où le mythe est vivant et aussi l'expérience négative du dessèchement, du déracinement qu'entraîne le rationalisme nous ont ouvert les yeux sur la valeur du mythe autrefois décrié. Le mythe nous apporte les archétypes nécessaires à l'équilibre de notre vie. Il nous fournit les grands schèmes dynamiques qui nous permettent d'organiser notre existence et de lui donner sens. C'est de lui que vient la lumière. C'est le mythe, écrit Gilbert Durand, c'est le mythe qui est le référentiel dernier à partir duquel l'histoire se comprend, à partir duquel le métier d'historien est possible et non l'inverse. Ainsi, le phénomène napoléonien, ça nous changera de la Révolution française, mais pas vraiment, parce qu'il en est l'aboutissement. Bon, le phénomène napoléonien se comprend comme la résurgence du mythe de Prométhée. Et si l'on considère l'histoire individuelle, on remarque qu'il a fallu à un Freud recourir au mythe, au fameux mythe d'Œdipe, pour éclairer la constitution de la personnalité. Le mythe, a-t-on encore découvert, dessine une coexistence entre la nature et la culture. Il permet à l'homme d'intégrer le mal et la mort. Le mythe, dit encore Durand, est le discours ultime où se constitue la tension antagoniste fondamentale à tout discours, c'est-à-dire à tout développement du sens. L'importance humaine du mythe est telle que Denis de Rougemont s'écrit « D'où viennent les mythes? Sont-ils nos inventions ou nous ?»
les leurs.
Jésus continuerait sans doute, celui que je fais parler depuis le début, Jésus a certainement existé. Le scepticisme sur ce point tombe dans le ridicule. Mais ce qui nous intéresse dans les récits qui le mettent en scène, ce n'est pas l'exactitude dans la correspondance aux faits, c'est la puissance d'illumination du cortège d'images et de la structure de l'ensemble. Sur ce Jésus, la communauté a projeté les symboles qui étaient comme en suspension dans la culture de l'époque, les signifiants flottants. Ce que certains ont appelé le croyable disponible. La figure du Messie, du Fils de l'homme, la figure de l'homme divin, du Rédempteur, du Révélateur. Et c'est l'assemblage de ces schèmes autour de la personne de Jésus, c'est cette mythe-histoire qui a permis à ses disciples de donner à leur monde et à leur vie sens et forme. C'est elle qui a structuré leur vision des choses, elle leur a permis d'apprivoiser le mystère du sacré, toujours terrible, et de la mort. Et notre interlocuteur, l'interlocuteur, toujours lui, lancerait ce défi, nier, dirait-il, que l'histoire évangélique a joué un autre rôle au temps de la chrétienté. Les foules chrétiennes d'alors s'intéressaient fort peu à l'historicité objective. Les chrétiens s'en inquiétaient fort peu, mais ils cherchaient finalement ce qu'on trouve dans le mythe. Lorsqu'ils lisaient, quand ils lisaient les évangiles, ou quand ils dressaient leurs tableaux dans leurs églises, c'était pour eux de la mythe-histoire. Ce discours que j'imagine, je ne l'ai pas résumé trop brièvement, car j'ai voulu saisir l'occasion d'esquisser la théorie du mythe qui a la faveur de nombreux penseurs aujourd'hui et qui me persuade en partie. Ce discours est séduisant. Et à propos du dernier argument de la botte finale, je dois avouer touché. Il est exact, me semble-t-il, que sous le régime de la société christianisée, le régime qu'on a parfois appelé constantinien, l'Évangile a surtout fourni des images pour régler les représentations communes avec une liturgie répétitive, comme dans les sociétés où le mythe règne. La naissance, la mort, la résurrection, l'ascension de Jésus y revêtaient comme une sorte d'intemporalité mystérieuse. Et la célébration les rendait présents comme une sorte de présence d'éternité. Mais cette manière de traiter ce que l'on trouve dans la Bible, dans le Nouveau Testament, était-elle fidèle au sens premier du message ? Est-ce là l'Évangile ? L'amalgame évident avec les coutumes et les habitudes mentales héritées du paganisme, dans cette synthèse que fut la chrétienté occidentale, nous oblige à nous poser la question de la fidélité. Et si j'ai commencé par lire le document normatif du Nouveau Testament, c'est qu'il est notre seul recours pour déterminer ce qu'est l'Évangile. Quand on considère l'Évangile bibliquement défini, est-on justifié de combiner pour lui les catégories du mythe et de l'histoire ? En fait, beaucoup de mythes et peu d'histoire. Je vous livre d'emblée ma conclusion. C'est un mauvais aiguillage. Ce discours est séduisant au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il nous conduit du mauvais côté, qu'il nous égare. En réalité, le mythe et l'évangile ne se mêlent pas plus que l'eau et le feu. L'évangile tient ou tombe avec l'historicité des événements qu'il proclame. Et par historicité, j'entends qu'ils se sont produits dans l'espace et le temps. Avant de m'efforcer de le faire apparaître, il faut que je signale cependant un défaut de la cuirasse chez les avocats de la mythe-histoire. En effet, je crois qu'il faut remarquer que la dénonciation de l'histoire positiviste recèle des ambiguïtés. Elle vise parfois la conviction qu'il y a des faits indépendants de l'historien dont on peut s'assurer à l'aide de témoignages plus ou moins probants qu'ils ont bien eu lieu. Mais cette conviction n'est pas du tout du positivisme. Elle meut déjà les historiens de l'Antiquité et depuis la plupart des hommes dans la plupart des âges l'ont partagé, et c'est un abus de langage que de l'étiqueter positivisme. La dénonciation du positivisme vise aussi un certain rétrécissement du champ d'intérêt, la concentration des recherches sur les seuls aspects matériels et chronologiques, avec une précision méticuleuse et la volonté de recenser tous les détails. Là, il me semble qu'il est davantage permis de parler de positivisme, de l'attitude particulière des historiens d'une époque. Mais le mot convient surtout pour une philosophie sous-jacente, car au fond, le positivisme a été fondé comme une philosophie par Auguste Comte. Une philosophie qui veut tout expliquer en termes de lois de la nature, sans autre facteur pour expliquer les phénomènes. Ce qui, condescendant ou railleur, répudie l'histoire positiviste, comprennent en réalité fort bien quand on affirme, par exemple, que la résurrection de Jésus a eu lieu dans l'espace et le temps, comme un événement qui a transformé son cadavre là où il était déposé. Ils le comprennent très bien, mais pour le nier. Et c'est au fond un jugement qui porte sur les faits qu'ils énoncent quand ils disent que cela ne s'est pas passé ainsi. Et pour les pousser à cette négation, il me semble bien que je vois à l'œuvre un reste substantiel de philosophie positiviste, mais j'y reviendrai. Pour le moment, je souligne que la thèse qui nous propose de considérer l'Évangile comme mythe-histoire implique la nécessité de briser, comme certains disent, la coque de littéralité des récits pour mieux en libérer la puissance mythique qui peut nous éclairer. Alors pourquoi, malgré la richesse, la valeur humaine que je reconnais au mythe, suis-je persuadé que l'Évangile est incompatible avec lui? Commençons par le phénomène des apparences. Elles ne sont pas toujours trompeuses. Les traits extérieurs livrent souvent de précieuses indications. Il me semble impossible de passer sous silence l'usage péjoratif du mot « mythe » dans le Nouveau Testament. Il ne revient pas très souvent, mais chaque fois qu'il est employé, c'est avec une connotation défavorable. Le texte de la deuxième épître de saint Pierre, que nous avons lu ensemble déjà plusieurs fois, nous en a donné l'illustration avec le contraste éloquent entre mythe d'une part et témoignage oculaire et auriculaire de l'autre. L'auteur là rappelle que ce fut son privilège de se trouver sur la montagne de la Transfiguration et d'assister en direct à la scène qu'il nous décrit. Le contraste se poursuit, vous l'aurez remarqué aussi, par une opposition entre le mythe et la parole inspirée fermement sûre. Ne pensons pas que la chose soit de pur accident ou totalement irréfléchie, car la religion grecque avait son trésor de fiction, belle parfois, des histoires d'hommes et de dieux. Et les hommes de raison s'étaient interrogés à leur sujet. Nous avons toujours trop tendance à nous imaginer l'époque du Nouveau Testament comme une époque primitive, un peu rampante. Mais le monde était déjà très vieux. Et c'est sur la fin d'une culture que se situe l'essor du christianisme. Et les hommes, les penseurs, avaient eu le temps de remuer les problèmes. Les hommes de raison considéraient ces vieux mythes avec un mélange de sympathie, de fascination et de méfiance. Et ils s'étaient rendus compte qu'il n'était pas nécessaire simplement de les répudier quand on ne pouvait plus leur ajouter foi, mais qu'il était possible de les réinterpréter. Il y avait deux grands types d'interprétations en Grèce, des vieux mythes homériques par exemple. Il y avait les évéméristes, eux les interprétaient comme des souvenirs déformés, comme la transfiguration et l'embellissement des choses qui avaient concerné les hommes. Et les stoïciens, et d'autres, mais surtout les stoïciens, eux les interprétaient allégoriquement comme des symboles poétiques, comme beaucoup de penseurs à nous contemporains, auxquels j'ai fait allusion, interprètent les mythes et voudraient interpréter la Bible. Les auteurs du Nouveau Testament savaient ce qu'étaient les mythes et quelles attitudes diverses on pouvait adopter à leur égard. Si on leur accorde la moindre lucidité, il est sans doute significatif qu'ils se soient montrés hostiles à la catégorie même du mythe et qu'ils aient opposé leurs prédications et les récits mythologiques. Ils ont été d'ailleurs suivi en cela par la plupart des auteurs chrétiens des premiers siècles. La différence de genre littéraire, la différence de climat lorsqu'on lit est aussi très sensible entre les mythes et les récits des évangiles. Le mythe ancien est une sorte de parole-image et de parole-geste. Les mythologies les plus raffinées des temps de décadence flattent l'imaginaire et jouent d'effets crépusculaires. Rien de tout cela dans le Nouveau Testament. Le professeur de littérature d'Oxford, qui est devenu l'un des plus grands apologètes de la foi chrétienne du XXe siècle, C.S. Lewis, dont plusieurs livres sont traduits en français, dit dans ses réflexions chrétiennes à propos de l'Évangile, je le cite, « J'ai lu des poèmes, des textes apocalyptiques, des légendes, des mythes, toute ma vie, c'était son métier. Je sais à quoi ils ressemblent, je sais qu'il n'y en a aucun qui soit comme ce texte-ci, l'Évangile. » La différence formelle et frappante. Nous avons dans les évangiles un langage direct, prosaïque, une situation parfaitement nette. Mais la différence la plus évidente, l'opposition la plus frappante, dès qu'on s'approche des textes bibliques, en ayant à la pensée ce qui caractérise les mythes, tient à la référence temporelle. Le mythe. Et c'est là une constante. Le mythe se situe dans le grand temps qui est au fond hors du temps, qui n'est pas du tout du temps ordinaire. C'est en ce temps-là, au temps des commencements, tellement lointain qu'on ne peut plus y porter vraiment son regard. Le monde du mythe est celui de la répétition indéfinie ou de l'éternel retour. Le poète Billon, poète bucolique né près de Smyrne, du IIIe siècle, dans sa lamentation pour Adonis, chant funèbre en l'honneur d'Adonis, l'exprime, et on pourrait trouver beaucoup d'autres citations. « Cesse, ô Cythère, aujourd'hui de te lamenter, ne te bats plus la poitrine. Quand l'an prochain sera venu, tu répandras à nouveau tes pleurs. » Répétition inéluctable, parce que le temps ne compte pas, sinon pour user, sinon pour désagréger, et il s'agit simplement de le neutraliser, il s'agit de renverser ce cours du temps en s'en évadant dans le grand temps originel. Le message chrétien est unique. C'est dans le temps historique, et un temps historique tout proche, parfaitement localisé pour les premiers qui prêchent le message. C'est dans ce temps-là que se situe l'événement qui est proclamé. On a souvent remarqué que Ponce Pilate appartient au credo. C'est là un fait éloquent qui pourrait résumer cette attache aux temps ordinaires et historiques, au sens le plus courant du terme de l'Évangile. Il y a quelque chose d'unique en cela. Et un homme comme Mircea Eliade, le professeur de Chicago, qui est une des autorités majeures de notre temps sur la question des religions comparées, a dans ses divers livres, Aspects du mythe, le mythe de l'éternel retour, le sacré et le profane, souligné qu'il s'agit là vraiment, avec le précédent du judaïsme, mais qui s'épanouit dans le message chrétien, il s'agit là d'une originalité absolue. Il reconnaît que cette originalité a été ensuite étouffée ou émoussée par le retour à certains types de pensées cycliques dans le christianisme de la chrétienté. Mais en ce qui concerne l'innovation du message biblique, il est formel. Or, cet ancrage par le témoignage oculaire certifié dans le temps et le lieu ne peut pas représenter pour l'Évangile un simple accident vestimentaire. Ou si je change l'image, ce n'est pas une simple écorce pour le message. En fait, le cœur de l'Évangile, son essence, sont ici en cause. Et le nom déjà le dit. Vous le savez, l'Évangile, c'est la nouvelle. Il ne s'agit pas d'un réseau de symboles pour humaniser le désert ou équilibrer la vie. Il s'agit d'une nouvelle. Ce n'est pas une théorie mystique, ce n'est pas une morale ou une méthode spirituelle que les apôtres ont propagée. Ils ont été les héros d'une nouvelle. Voilà donc, me semble-t-il, suffisamment exposé les différences entre mythe et histoire. S'il faut en retenir quelque chose, ce sera que le mythe est intemporel et atopique, qui n'a pas de lieu, qui n'est pas situé, alors que le récit historique date et localise les événements. Je voudrais en venir maintenant à la deuxième partie de mon exposé, à savoir les démarches et fonctions respectives du mythe et du récit historique. Je bois toujours comme si j'avais mangé au petit déjeuner une fondue suisse ou quelque chose, hein. courage pour nous tous, nous en sommes à la deuxième partie. La preuve que la relation au temps engage l'essentiel, c'est que le mythe a pour fonction suprême de délivrer du temps. Le mythe mis en œuvre dans le rite, les deux ne sont pas vraiment séparables à l'origine, refait ce que le temps a défait. Le temps use, le temps tue. Il y a comme partie liée entre le temps et la mort, et il s'agit de se libérer du temps. Lévi-Strauss aussi discerne dans le mythe une tactique d'annulation de l'historique. Il annule le passage du temps et tout devenir historique par la répétition massive, le retour cyclique, la stabilisation du devenir, et dans la gnose, gnose qui n'est en fait que la forme la plus évoluée du mythe, par la fuite hors du temps. Le mythe est profondément, mes amis, de l'anti-histoire. Et cela est vrai, sans doute même, pour les mythes modernes, malgré l'apparence. Je ne les étudie pas spécialement, car si l'on parle de l'Évangile comme d'un mythe, c'est à ceux de son époque qu'il faut le comparer. Mais même des mythes modernes, moins verdoyants que les anciens sous le régime rationaliste, sont toujours présents malgré l'apparence, et ils cherchent à neutraliser le temps. Comme ils sont le produit de la sécularisation du christianisme, ils paraissent honorer l'histoire, mythe du progrès, mythe de l'évolution, mythe de la révolution, mais alors qu'ils semblent plus historicistes que le message biblique lui-même, ils s'évadent de ce qui est vraiment de l'histoire, histoire libre de venir. Ils prétendent découvrir une loi de l'histoire, et ils remplacent l'histoire avec son imprévisible qui lui appartient par une abstraction, une dialectique quelconque, de telle sorte que subtilement, c'est encore de l'histoire que l'on s'est évadé. L'Évangile, au contraire, proclame que c'est une fois pour toutes, en ce temps-là, en ce lieu-là, il y a une radicale altérité entre cette manière dont les mythes cherchent à neutraliser le temps et la manière dont l'Évangile nous présente un événement du temps, comme l'événement sauveur lui-même. Mais que signifie cette altérité ? On perçoit une première fois sa portée quand on se rappelle la stratégie du mythe à l'égard du mal. Nous l'avons dit en suivant Durand, le mythe s'efforce d'intégrer les antagonismes. Dans un ensemble équilibré, il fait une place à la souffrance et à la mort dans de grandes oppositions binaires qui se répondent. Au fond, il nous donne une formule compréhensive, une formule qui permet de comprendre, qui apaisera l'angoisse. Et qui murmurera à l'homme, finalement, tout est bien. Adapte-toi aux équilibres du monde, épouse leur rythme, fais leur part aux termes opposés. Le mythe le murmure beaucoup plus qu'il ne le déclare, car il ne veut pas avoir l'air d'un discours à thèse. Il sait que sa force et dans la massiveté de l'évidence ou dans l'insinuation du charme. Il redoute la discussion, la lumière crue du forum, et il invite à l'abandon plutôt qu'à la décision. À cette stratégie, nul ne s'oppose plus décidément, couteau entre les dents, que l'Évangile solidaire de toute la pensée biblique. L'originalité des récits du livre des commencements, au début de la Genèse, c'est de séparer l'origine de l'être et l'origine du mal. Cela n'intervient vraiment que dans la Bible. Le péché et la souffrance qu'il entraîne, tout son cortège funèbre, n'appartient pas, pour la Bible, à l'ordre de la réalité. C'est l'ennemi qui a fait plus tard son apparition. C'est le désordre qui ne devrait pas être et qui a perverti l'ordre créationnel. C'est le scandale qu'il ne faut pas comprendre, mais combattre. Il faut le combattre, même dans l'indignation et aussi dans la honte et aussi dans la confession personnelle et collective, dans la repentance ou la conversion. Si l'Évangile annonce un salut dans l'histoire, c'est parce que le mal n'entre pas dans la structure de l'être. C'est là le mensonge que voudraient nous faire croire les mythes. C'est parce que le péché a été commis dans l'histoire qu'il peut être renversé et doit être renversé dans l'histoire. Et c'est le sens de la croix du Christ. Dieu a condamné le péché dans la chair. Il nous est dit que le Christ, lui qui n'avait pas connu le péché, qui était l'innocence même, que le Christ a été fait péché pour nous. En quelque sorte, le péché du monde, il l'a pris, porté sur ses épaules pour en finir avec lui. Et il a subi sur la croix le sort que mérite le pécheur devant Dieu. Voilà le cœur du message des apôtres. Dieu a condamné le péché, a liquidé le mal comme poids de culpabilité et comme puissance d'asservissement dans cet événement qui renverse l'événement fatal de la révolte humaine. Et la victoire sur la mort en est la conséquence, car l'aiguillon de la mort, c'est le péché, nous dit l'apôtre saint Paul. La victoire sur la mort l'a démontré le troisième jour. Pionnier d'une vie nouvelle qui triomphe à jamais de la mort, Jésus-Christ est ressuscité. Si la Bible est si peu sympa au mythe, comme vous l'aurez remarqué, ce n'est pas seulement une différence de deux genres littéraires. On pourrait dire que les mythes et les philosophies ont cherché à interpréter l'existence humaine, mais que l'événement qu'annonce l'Évangile, c'est la transformation de l'existence humaine. Le péché est réellement vaincu à la croix de Jésus-Christ et dans sa résurrection. Qui parle du mal, parle d'un sujet si fondamental qu'il tire bientôt d'autres termes aussi décisifs. Durand parle à propos précisément de cette intégration des antagonismes de la guerre des dieux. Il nous dit lui-même qu'au fond, tout mythe met en scène la guerre des dieux. Je crois que nous pouvons tirer de cette remarque la pensée que la vision même de Dieu ne peut pas être intacte. Dans le grand débat entre le mythe et l'Évangile, c'est aussi ce qu'est Dieu qui est en cause, qui est en jeu. Et comment pouvons-nous le voir plus précisément ? Nous observons que le mythe se caractérise par une sorte d'homogénéisation de l'humain et du divin. Dans le monde des mythes, finalement, les dieux, les hommes, le monde, la nature forment comme une seule masse. Et entre les dieux et le monde lui-même, la distance paraît extrêmement difficile à mesurer. Il y a théocosmogonie, pourrait-on dire, et souvent théomachie, combat de Dieu en même temps. La pensée biblique, vous le savez, tout autre, avec le Dieu souverain, le Dieu indépendant du monde, le Dieu qu'on ne confond jamais avec sa créature, qui en est totalement indépendant, alors que la créature dépend totalement de lui. Est-ce que cela apparaît dans l'Évangile ? C'est ce que je vous suggère. Je suis frappé par un verset que l'on trouve dans la première épître de saint Jean, lorsqu'il dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous transmettons est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. » Il est curieux que cette vérité théologique, cette vérité éternelle sur Dieu, il la présente comme une nouvelle. Car il ne s'agit pas là de l'événement même qui est au centre de la prédication évangélique. Pourquoi parle-t-il de nouvelles à ce propos? Le Dieu qui contient en lui la ténèbre, eh bien c'est le Dieu des mythes. C'est le Dieu en guerre avec lui-même. Le Dieu, avec un petit dé, tout petit, c'est le Dieu qui contient les deux principes. Le Dieu qui intègre le mal et sans doute... C'était à certaines formes de gnose que Jean pensait lorsqu'il affirmait avec la massivité sereine qui le caractérise, il n'y a en lui aucune ténèbre. Le Dieu de la Bible est le Dieu qui est libre, qui n'a rien à voir avec le mal, parce qu'il est élevé au-dessus de sa création. Et c'est une nouvelle qui nous est en quelque sorte confirmée par l'Évangile lui-même. Dans l'Évangile, nous avons comme l'attestation de la liberté de ce Dieu. Ce qui scandalise la raison niveleuse, ce qui scandalise ceux qui sont formés à penser par le mythe, c'est ce que l'on a appelé la particularité du christianisme. Comment le Dieu qui a tout créé, le Dieu de tous les hommes, le Dieu de tous les temps, se serait en quelque sorte lié à ce point particulier comme ça dans l'espace, à ce lieu, à cette Galilée, à cette ville de Jérusalem et à ce temps. Pourquoi celui-là? À ce temps entre tous les temps. Mais c'est scandaleux. On ne peut pas l'admettre. Au contraire, je dis que cette particularité, c'est l'attestation de la liberté de Dieu. Un Dieu qui ne serait qu'un corrélat logique du monde, qu'une face du monde ou qu'un sommet de l'être, n'aurait pas cette liberté. Il correspondrait simplement aux équilibres que l'on a dessinés. Mais le Dieu de la Bible reste libre. Et il signe en quelque sorte son œuvre par cette liberté même dans son intervention. Il choisit quand il veut et où il veut de se manifester et d'intervenir. Cette liberté de Dieu s'atteste dans la particularité même de ce temps et de ce lieu. Et elle marque bien qu'il ne s'agit pas d'un Dieu projeté par l'imaginaire, par l'imagination des hommes, mais d'un Dieu qui intervient le premier, qui a lui l'initiative comme un Dieu digne de ce nom. Un Dieu dont le salut dépend d'en haut et qui ne propose pas une échelle pour que par leurs efforts les hommes montent jusqu'à lui. Malgré quelques ambiguïtés sur sa notion d'histoire, car Barthes l'avait bien compris, il a su dire avec beaucoup de force l'opposition à cet égard entre l'Évangile et le mythe. Il a été jusqu'à s'exclamer, c'est vraiment le cœur de l'Évangile, que Dieu soit devenu, c'est horrible à dire, que Dieu soit devenu datable, localisable. C'est là le propre de l'Évangile qui renverse tout calcul humain, qui atteste la souveraineté et la souveraine grâce de Dieu. Je ne conteste pas, ayant, je pense, réussi à montrer que vraiment le cœur de l'Évangile est en jeu. Dans ce contraste entre le mythe et lui, je ne conteste pas que la révélation biblique remplisse aussi le rôle que le mythe a tenté de jouer en déformant plus ou moins les choses, à savoir de structurer le monde et la vie, de mettre chacun et chaque chose à sa place en dénonçant le scandale du mal. La Bible fournit bien à l'homme ce que le mythe essaie aussi de lui donner, car l'homme ne s'en passe pas. La Bible fournit bien à l'homme une image globale, motrice, et une interprétation de l'existence. Mais ce n'est pas là l'Évangile. C'est la loi qui précède l'Évangile. Les réformateurs protestants ont su le mettre en évidence. Il y a un double contenu de l'ensemble de l'Écriture sainte. Il n'y a pas seulement l'Évangile, il y a la loi. L'Évangile prend son sens dans le cadre qui est défini par la loi. Et ne pensons pas seulement à la loi en termes de préceptes et de commandements, en termes de droit et de jugement. Le terme de loi, Torah, vous le savez sans doute, signifie d'abord l'instruction. Dieu a donné à son peuple l'instruction voulue quant à son œuvre de créateur. Il lui a donné les structures nécessaires pour qu'il puisse penser droitement. Et c'est une fois ce cadre posé qu'il est librement intervenu en rédempteur. Il y a les deux. La loi, ainsi que la sagesse, qui est comme une digestion humaine de la loi conduite par Dieu lui-même. Il y a et puis il y a le message de l'Évangile, la nouvelle. Ainsi, la mythe-histoire, cette conception hybride, pervertit vraiment l'essentiel et nous fait perdre ce que l'Évangile est dans son cœur. Mais comme vous l'aurez compris, la thèse que je défends, c'est du quitte ou double. Car si je récuse toute tentation d'interpréter l'Évangile comme un mythe, alors il n'y a pas moyen de le sauver des assauts du scepticisme en disant « Eh bien, ne considérons pas trop la littéralité des choses, ne nous inquiétons pas des faits matériels. » Pas moyen de s'en tirer en disant « C'est un symbole, c'est comme cela qu'il faut le prendre, l'autre question ne nous préoccupe pas. » Non, c'est du quitte ou double. Si l'Évangile vaut que comme histoire, que comme proclamation de ce qui est arrivé, il faut que ce soit vraiment arrivé pour que l'Évangile soit autre chose qu'une supercherie. C'est ce que l'apôtre saint Paul, avec une lucidité et en même temps une candeur extrême, dit très clairement aux Corinthiens dans le 15e chapitre de sa première épître. Certains d'entre eux, sans doute séduits par certaines mythologies grecques, avaient réinterprété l'idée de résurrection. Et l'apôtre y va de toutes ses forces pour lutter contre cette adultération du christianisme. Il énumère les témoins de l'événement de la résurrection du Christ, du ressuscité, ceux qui l'ont vu ressusciter. Et puis, il souligne ensuite que si le Christ n'est pas ressuscité dans ce sens historique que le contexte démontre très bien, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alors, nous sommes de faux témoins. Alors, vous êtes encore dans vos péchés. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Pas question de s'en tirer en disant « Nous avons là le plus beau mythe de tous les mythes et cela nous suffit. » Non, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alors, est-ce croyable que Dieu lui-même littéralement se fasse homme, naisse d'une vierge, vive sans péché? Et ce n'est pas là le moindre miracle. On l'oublie trop souvent. Qu'il meure et ressuscite, qu'il monte au ciel, est-ce que tout cela est croyable? J'ai employé l'adverbe littéralement et je veux signaler qu'il n'est pas sans équivoque, car tout langage portant sur Dieu est nécessairement analogique. Tout langage qui désigne les réalités célestes, alors que notre langage s'est formé pour désigner des réalités terrestres, ne peut être employé que de façon analogique. Par exemple, lorsque nous parlons de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne pensons pas que la translation physique qu'ont vu les disciples n'ait été autre chose qu'un signe de son élévation à la droite du Père dans la position du gouvernement de l'histoire. Le principe d'analogie a sa place. Mais
Lorsqu'il s'agit des faits terrestres, des miracles, de sa naissance, de son ministère, de sa résurrection, il n'est plus question de recourir à cette notion de l'analogie. Ce serait finalement frauduleux. Le principe d'analogie n'est pas une loi absolue. Nous refusons que le principe d'analogie devienne une loi que nous imposerions à Dieu, car le poser comme une loi absolue, ce serait interdire à Dieu d'intervenir. Nous disons analogie, oui, mais liberté pour Dieu de faire du non-analogue, de faire du neuf s'il lui plaît, de montrer sa liberté par rapport au réseau de constantes qu'il a institué dans sa création. Le terme littéral est donc quelque peu ambigu. C.S. Lewis l'a bien remarqué dans un autre de ses livres, celui sur les miracles, en disant « Si je dis « le vase de Chine s'est brisé », j'emploie un langage littéral, et personne n'a le droit de penser cela comme un symbole, le mot « brisé ». Mais si je dis « mon cœur s'est brisé », alors j'emploie un langage analogique. Il s'agit là d'une analogie de métaphore. Certes, toutes les analogies ne sont pas de ce type. Mais vous voyez la différence. Or, un certain nombre d'auteurs semblent invoquer le fait qu'il y a un langage analogique dans certains passages de la Bible pour traiter symboliquement les choses les plus terre-à-terre qui nous sont dites à propos des œuvres terrestres de notre Seigneur. Je signale seulement le piège qu'il peut y avoir dans l'usage de ce terme littéralement. Mais même si l'on fait la distinction, même si l'on ne joue pas comme il ne faut pas sur ce terme, est-ce croyable ? En un sens, j'avouerai bien que c'est incroyable. Et je m'inspirerai de Tertullien pour dire « si je crois, c'est parce que c'est incroyable ». C'est dans cette espèce d'étourdissement de mon esprit, dans l'explosion de toutes mes habitudes mentales et de mes possibilités de mon imagination, que précisément le vrai Dieu vivant, libre, s'atteste comme vrai Dieu vivant et libre. S'il faisait ce que j'attends de lui, je pourrais le soupçonner à bon droit d'être le produit de mon imagination. Mais comme il fait vraiment éclater tout ce que je peux penser, alors j'ai là comme la révélation qu'il est vraiment ce Dieu qui me submerge et me surplombe à la fois. Oui, je veux croire parce que c'est de l'incroyable. Mais ce n'est pas sans tentation, à cause de la tension qui est infligée à notre manière habituelle de réfléchir. Il faut reconnaître que la foi se conquiert sur le doute et qu'elle s'accompagne toujours, comme dans la parole de l'Évangile, du « viens au secours de mon incrédulité ». Il y a des moments de tentation où c'est cela que l'on dit, devant ce récit incroyable qui nous est fait. Mais il y a d'autres moments où la paix nous est donnée, la sérénité, et où je pense que la foi, c'est le rire d'Abraham. Je ne sais pas si vous vous rappelez la réaction d'Abraham quand on est venu lui annoncer que lui, le pauvre vieux, tout décati, il allait avoir un fils. Sa femme avait de loin passé l'âge, et lui aussi. Et il n'a pas douté. Il a cru et il a ri. C'était tellement beau, c'était tellement extraordinaire. Le Seigneur le surprenait à tel point. Il faisait exploser toutes ses vieilles rancœurs, toutes ses vieilles tristesses. Le Seigneur le dépassait tellement qu'il ne pouvait qu'en rire dans la foi. Je dirais que l'incroyable de l'histoire de l'Évangile nous permet le rire d'Abraham, mais qui ne tourne pas au rire de Sarah. Car Sarah, la femme d'Abraham, elle, vous le savez, a été sanctionnée pour un rire d'incrédulité. Cependant, il nous faut, puisque nous voulons être responsables dans cet acte de foi que nous supplions le Seigneur de nous donner jour après jour, il nous faut examiner les choses. Nous voici arrivés à la troisième partie de cet exposé qui est en sorte l'aboutissement, le but vers quoi tendaient les deux autres, la réflexion sur le message de l'Évangile, sur sa crédibilité. Il faut nous rappeler qu'en matière historique, ce qui est à croire ou à rejeter ne se détermine pas à partir des souhaits ou des idées de l'historien. s'il est un bon historien, honnête avec la matière qu'il a à traiter. Ce qui doit déterminer chez un historien l'affirmation ou la dénégation, c'est la valeur des témoignages. L'histoire est le domaine de l'imprévisible. Et s'il a des témoignages sûrs, dignes de foi d'un événement donné, alors l'historien devra honnêtement affirmer que cet événement a dû se produire. Est-ce le cas pour les événements dont le Nouveau Testament nous parle? C'est là la question. C'est la question que, pour être responsable dans notre foi, nous devons poser. Je crois pouvoir affirmer que nous n'avons rien à demander de plus que ce qui nous est donné dans le Nouveau Testament. Nous avons là des témoignages oculaires qui se présentent comme tels, non pas d'un seul témoin, mais de toute une pluralité de témoins très différents les uns des autres et qui se placent à divers points de vue et qui nous donnent, si j'ose dire, toute garantie de moralité. Qui pourrait contester aux apôtres qui ont été collégialement responsables de l'ensemble du Nouveau Testament une autorité spirituelle, une droiture? Pensez déjà à la manière qui contraste tant avec les histoires que l'on trouve ailleurs, dont ils se présentent, eux-mêmes se décrivent dans l'histoire évangélique. Ils auraient pu se donner le beau rôle, mais avec une grande sobriété qui montre qu'il ne s'agissait pas de masochisme non plus de leur part, ils se montrent tels qu'ils ont été. Avec leurs doutes, avec leurs incompréhensions, avec leur petitesse, avec leurs élans aussi. Ils le montrent avec une sobriété qui est comme marque excellente de vérité. Les apôtres sont des hommes dignes de foi et rien ne pourrait expliquer qu'ils aient fraudé en la matière. Qu'en ont-ils, selon les hommes, retiré? C'est une vie de persécution qu'ils ont connue, de fatigue et de danger, pour finir par le martyre. C'est le sens de la fameuse formule de Pascal, je crois volontiers les témoins qui se font tuer. Pascal sait bien que dans toutes les religions, il y a eu des martyrs de la conviction. Il ne s'agit pas de cela ici. Il ne s'agit pas de martyrs de la conviction chrétienne. Il s'agit des martyrs du témoignage oculaire. Des hommes qui sont morts parce qu'ils maintenaient l'affirmation « nous avons vu ». Nous avons touché, nous avons palpé, dit en quelque sorte le début de la première épître de saint Jean. Les apôtres se présentent comme des hommes qui ont vécu dans le détail le plus complet la rencontre du ressuscité, qui ont mangé et bu avec lui, qui se sont entretenus longuement avec lui, qui ont reçu son instruction après sa résurrection d'entre les morts. Il ne s'agit pas d'une grande vision qu'on pourrait prendre pour une hallucination. Ils attestent cela. Et ils ont été jusqu'à la mort pour sceller leur témoignage. Je viens de mentionner Pascal. Des hommes, plus récemment, l'ont aussi reconnu, cette valeur du témoignage, telle qu'un historien peut le soupeser. Je pense au professeur de droit de l'Université de Londres, un juriste renommé, le professeur Anderson, qui a étudié en juriste ces témoignages de la résurrection, en particulier, car finalement, c'est avec la résurrection que tout tient, tout tombe. Et même un homme, comme le théologien allemand Pannenberg, qui n'est pas respectueux de toute l'écriture et de loin, qui se laisse influencer à l'excès, me semble-t-il, par la pensée de Hegel, reconnaît qu'un jugement historique sur la base des témoignages amène à conclure à l'entière historicité, au sens courant du terme, de la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ est l'un des faits les mieux attestés de l'Antiquité. Parmi ceux que tout le monde accepte comme vérité historique de l'Antiquité, il n'y en a pas beaucoup qui soient plus fermement et mieux attestés pour l'historien, sans préjugé contraire, que la résurrection de Jésus-Christ. Quelles raisons les douteurs avancent-ils? Je pense que ce sont trois raisons principales. Je vais devoir survoler très rapidement ce dossier, mais je pense quand même qu'il faut que je vous donne les trois éléments principaux. D'abord, il y a les contradictions internes qu'ils pensent trouver dans les textes évangéliques. S'il y a des divergences qu'on ne peut pas résoudre, alors il s'agira donc nécessairement de textes qui s'écartent de la vérité historique. Ensuite, deuxièmement, il y a le fait même qu'il s'agisse de documents de foi. Ce sont des croyants qui ont écrit. Et alors, on les soupçonne d'avoir déformé les choses, d'avoir enjolivé et même complètement inventé. Et en troisième lieu, les similitudes avec des mythes païens connus suggèrent que la façon dont les évangiles ont été composés est celle que j'ai déjà évoquée au début, la projection de symbolismes divers qui étaient connus à l'époque sur la figure historique de Jésus, bien vite recouverte. Et l'on pense que les évangiles sont le produit d'un travail de la communauté chrétienne, un peu comme le folklore a résulté du travail des peuples dans le monde entier. La première raison, à savoir celle des contradictions internes, il me semble que le fait de la mettre en avant démontre plutôt un parti pris négatif qu'une véritable objectivité scientifique. Curieusement, certains hommes, quand ils lisent le Nouveau Testament, trouvent des contradictions là où personne, pendant des siècles, n'a pensé en voir. Là où les chrétiens, génération après génération, ont pensé qu'il y avait parfaite harmonie. Par exemple, c'est un point qui est admis par un certain nombre de critiques aujourd'hui, qu'il y a contradiction entre le récit de la naissance virginale et le thème de l'incarnation. Au lieu de considérer que le miracle de la naissance virginale est un signe excellent de cette incarnation, même une prophétie à certains égards de la résurrection, on considère qu'il s'agit là de deux explications qui s'excluent. Et il y a donc là une contradiction. Beaucoup des contradictions prétendues sont de cet ordre-là. De façon générale, on a l'impression que le Nouveau Testament est présumé coupable s'il ne prouve pas son innocence. C'est le renversement du principe habituel du droit. Et plusieurs ont fait valoir qu'il s'agit d'une approche qui, si on l'appliquait à d'autres livres, ruinerait le crédit de n'importe quel auteur. Il est bien vrai qu'il y a diversité entre les témoignages qui sont recueillis dans le Nouveau Testament, mais cette diversité telle qu'elle confirme plutôt l'indépendance des témoins, le fait qu'on n'a pas essayé de raccorder artificiellement leur dire. C'est une diversité donc confirmatoire. Certes, il peut subsister quelques difficultés, mais ces difficultés, quand nous songeons à notre ignorance du contexte, des choses auxquelles il est fait allusion en arrière-plan, et que nous ignorons, et quand nous tenons compte de nos problèmes de compréhension même du langage, ces difficultés ne sont pas si nombreuses que cela. Du reste, le cardinal Newman ne disait-il pas que 1000 difficultés ne font pas une impossibilité? Marquez ça sur vos tablettes. 1000 difficultés ne font pas une impossibilité. Vous êtes fraternel comme c'est pas possible. Merci, mon père. En fait, il est très frappant que les historiens de formation, les historiens du classicisme de l'époque antique, soient beaucoup plus confiants et favorables à l'historicité des récits évangéliques que ceux qui, prétendument théologiens, s'attachent à en ruiner le crédit. En ce qui concerne, deuxièmement, la seconde raison, qu'il s'agit de témoignages de foi, je crois que je peux dénoncer un sophisme pur et simple. Pourquoi des témoignages de foi seraient-ils nécessairement frauduleux ou inventifs? Pourquoi imputerions-nous nécessairement à ces croyants de la première génération des inventions à propos de leur Seigneur? Il faudrait pour cela que l'on ait démontré que leur foi se désintéresser totalement de l'histoire et se délecter de la prolifération des imageries mythiques. Mais ce n'est justement pas cela que l'on a pu démontrer. Leur foi, telle qu'elle se présente, s'atteste et se formule, s'attache à l'histoire de la manière la plus décisive. Leur foi n'est pas un saut dans le vide. Leur foi est une construction sur le roc de ces faits dûment attestés. Et ce n'est pas du tout parce qu'ils croyaient qu'ils ont vu Jésus-Christ ressuscité. C'est parce qu'ils l'ont vu ressuscité qu'incrédules d'abord, ils ont été contraints par l'évidence de son apparition, par les paroles qu'il a prononcées. Ils ont été contraints de confesser « Mon Seigneur et mon Dieu » comme l'a fait Thomas. Le fait que les documents du Nouveau Testament soient documents de foi implique certainement une sélection parmi toutes les choses qui nous sont dites. Si tout était raconté, nous dit l'évangile de Jean, le monde entier ne pourrait pas contenir tous les livres qui seraient nécessaires pour les écrire. Il y a une sélection, il y a une manière de présenter les enchaînements, il y a une attention particulière aussi sur les événements de la mort et de la résurrection du Seigneur, qui montre bien qu'il ne s'agit pas d'historiens froids et distants, mais qu'il s'agissait de disciples. Mais cela n'implique aucune manipulation des faits, aucune invention de traits qui n'aurait pas correspondu à la réalité. Quant à la troisième des raisons qui sont données, à savoir les similitudes avec des mythes païens, je crois que cette raison est comme sapée à la base par une série de faiblesses méthodologiques dont je ne peux que faire le répertoire. Il y a d'abord la surestimation d'analogies qui sont très très pâles et lointaines. On peut trouver quelques ressemblances, mais elles sont si peu de choses à côté des différences. Ces ressemblances elles-mêmes signifient simplement que dans les mythes se traduit quelque chose des aspirations de l'homme. Les mythes essaient d'arranger un ordre. Mais en arrangeant cet ordre pseudo, les mythes doivent tenir compte quelque peu de la réalité et des besoins réels de l'homme. De telle sorte que certaines similitudes ne peuvent pas nous étonner tellement. Mais ces similitudes sont très peu de choses. On n'a découvert aucune similitude vraiment proche et frappante. Il y a aussi le renversement de l'ordre temporel. Souvent, on présente ce que le Nouveau Testament nous dit de Jésus comme le produit d'influences gnostiques, d'influences de l'idée de l'homme divin dans l'hellénisme de l'époque. Mais en fait, tous les textes qui nous parlent de ce mythe gnostique, qui nous présente par exemple Apollonios de Tyane, l'un de ces prétendus hommes divins, sont beaucoup plus tardifs que le Nouveau Testament. Ils viennent au plus tôt de la fin du second siècle après Jésus-Christ, et même bien du troisième. Et on y discerne l'influence du Nouveau Testament que ces écrits, en quelque sorte, ont voulu imiter. Il n'y a aucun texte antérieur au Nouveau Testament que l'on puisse citer. L'hypothèse de la communauté qui, en quelques dizaines d'années, produirait toutes ces histoires est aussi foncièrement irréaliste et invraisemblable. Les hommes qui l'ont proposé se sont en fait attachés à l'analogie de la formation folklorique. Mais le folklore s'est produit sur des siècles et des siècles et dans des populations généralement beaucoup moins raffinées culturellement que celles du premier siècle. Nous sommes dans un monde déjà vieux au premier siècle, comme je vous l'ai dit. Il ne s'agit pas de populations crédules, sans éducation, qui, livrées à elles-mêmes, produiraient des histoires sur de très longues périodes. Il s'agit de textes qui se sont produits dans l'espace d'une génération après les événements mêmes, qui ont été des événements publics qui ont secoué la population dans le peuple juif formé par l'éducation de l'Ancien Testament, en particulier par la tradition rabbinique accompagnée d'un examen juridique le plus méticuleux des pièces à conviction. Il s'agit d'un message qui est contrôlé par les témoins oculaires que les adversaires auraient pu complètement renverser et supprimer de la planète comme ils le souhaitaient s'ils avaient pu produire la preuve, par exemple, que Jésus-Christ n'était pas ressuscité. Cette hypothèse de la formation par la communauté, et qui a jamais vu un comité produire une œuvre littéraire, cette hypothèse est une hypothèse finalement fictive. En fait, ce ne sont pas ces mauvaises raisons qui ont engendré le doute, mais c'est le doute qui a engendré ces mauvaises raisons. Si des hommes généralement compétents ont été prêts à croire n'importe quoi plutôt que les témoignages des témoins oculaires, c'est qu'ils étaient persuadés d'avance que les faits rapportés ne pouvaient pas se produire. C'est là, je crois, et je pense que vous le savez aussi, le véritable facteur qui a joué. C'est la conviction première que la résurrection n'était pas possible, que la naissance virginale, non, raconte cela à des enfants, mais nous savons bien que cela ne se peut pas. C'est un dogmatisme mal placé, négatif. Nous savons que tout cela ne peut pas se produire. C'est cet a priori-là qui a infléchi le jugement des historiens. Or, de quoi s'agit-il dans cet a priori, sinon du modèle positiviste de la réalité dont nous parlions tout à l'heure, de ce qu'on pourrait appeler un mythe qui s'oppose au schème biblique. Je pense qu'on pourrait démontrer aussi d'ailleurs que les autres façons de s'écarter de la pensée biblique en matière d'histoire correspondent à de profonds mythes sous-jacents. L'accusation, par exemple, de fétichisme des faits chez ceux qui prétendent que les faits ne sont pas déterminés, chez ceux qui, comme Hegel, peuvent dire que l'histoire peut faire ce qui a été, peut faire que ce qui a été n'a pas été. Non pas que les conséquences en soient effacées, mais ce qui a été n'a pas été. C'est un mythe qui commande une telle façon de concevoir les choses, totalement éloignée du sens commun. C'est le mythe d'un devenir dialectique qui est l'ultime, qui est finalement l'absolu se construisant lui-même. C'est un mythe qui remplace le schème biblique, le schème qui nous a été révélé dans la loi de Dieu et que présuppose l'annonce de l'Évangile. Je sais bien que tous les hommes, parce qu'ils ne se passent pas d'image globale motrice, sont prisonniers de quelques mythes errants, mais il est heureux. Mais il est heureux d'en prendre conscience. Cette bêtise est pour me faire pardonner l'heure et pour vous supplier humblement encore 2 minutes. Le témoignage, la parole de Dieu n'est pas liée. Le témoignage de l'Évangile, le témoignage de la résurrection, dans son contexte biblique, a la puissance de briser le carcan des mythes qui peuvent asservir jusqu'à la réflexion scientifique. Alors, je ne peux pas, moi, le plus petit d'entre vos frères, vous persuader, mais je peux vous encourager à vous exposer à la puissance de ce témoignage et à vous dire, prenez-le de face, c'est ainsi qu'il veut. Il vous demande, lui, de l'affronter nettement, comme il vous parle nettement. Il vous demande de prendre maintenant, peut-être, une décision. Il ne veut pas vous envoûter, il ne veut pas vous ensorceler, il veut que vous preniez vos responsabilités devant la fermeté de ce qui est présenté. Et comme l'Évangile annonce le partage en deux, puisqu'il nous parle d'histoire, le partage en deux de l'histoire de l'humanité avant et après Jésus-Christ, l'effet de la décision que vous prendrez en face du témoignage de la résurrection, en face de l'Évangile lui-même, partagera aussi votre histoire personnelle en deux. Nous trouvons ce partage dans de nombreux textes du Nouveau Testament, autrefois, maintenant. Parce qu'il s'agit justement d'histoire, il ne s'agit pas d'une technique, d'une méthode, d'une interprétation, il s'agit d'une transformation par la puissance même qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Alors exposez-vous à ce témoignage qui est consigné dans les pages de la Bible. Droitement, comme d'autres l'ont fait, décidez-vous et découvrez la confirmation que l'Évangile, non, ce n'est pas un mythe, mais la puissance de Dieu pour la transformation historique de ceux qui lui font confiance.